Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphresne.
L'université française est-elle gangrenée par l'islamo-gauchisme, en particulier les sciences sociales, domaine qui serait noyauté par un militantisme très virulent, porté par toutes les idéologies les plus hostiles à la France, qui paradoxalement, sous couvert de recherche, vivrait de crédit public. Jean-Michel Blanquer puis Frédéric Vidal s'en sont alarmés au point de déclencher une polémique après que la ministre de l'Enseignement supérieur lui demandait qu'une enquête soit diligentée pour distinguer le bon grain de la recherche de l'ivraie du parti pris. Cela amène à s'intéresser de plus près à ce concept d'islamo-gauchisme dont Pierre-André Taguieff peut s'arroger la paternité. Philosophe, politiste, historien des idées, il l'a forgé il y a quelques 20 ans. Depuis seulement quelques temps, il s'est banalisé au point de voir sa signification un peu dévoyée par quelques usages, surtout sur les plateaux de télévision où l'on aime manier des mots valises qui impressionnent le public. Alors que revêt cette appellation d'islamo-gauchisme ? Pierre-André Taguieff nous accompagne aujourd'hui dans cet effort de définition alors qu'il va bientôt faire paraître « Liaison dangereuse, islamo-nazisme, islamo-gauchisme » aux éditions Hermann. Il est notre invité. Pierre-André Taguieff, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la définition originelle de l'islamo-gauchisme ?
Écoutez, en fait, j'ai forgé cette expression au tout début des années 2000 pour désigner une alliance militante observable, de fait, entre certains milieux islamistes et divers milieux d'extrême gauche, que j'ai qualifié de gauchistes pour faire court, et ce, au nom de la cause palestinienne érigée en nouvelle grande cause révolutionnaire. Ou, plus précisément, j'ai forgé ce terme et défini le concept d'islamo-gauchisme alors que commençait la seconde intifada, disons entre l'automne 2000 et l'automne 2001, après avoir observé les grandes manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes d'octobre 2000, où l'on pouvait observer une alliance entre des organisations islamistes comme le Hezbollah, le djihad islamique ou le Hamas, leurs représentants en tout cas à Paris, et des groupes d'extrême gauche, surtout des trotskistes, mais aussi des anarchistes et d'autres groupuscules révolutionnaires, soudés par la diabolisation d'un ennemi commun. L'ennemi commun étant le sionisme, Israël, etc. Alors, je dirais que cette mouvance hybride trouvait alors sa raison d'être dans des convergences idéologiques et bien sûr des alliances stratégiques autour de ce que j'ai appelé l'antisionisme radical ou absolu, dont l'objectif est la destruction d'Israël. Au passage, je souligne le fait que par antisionisme radical, je ne vise bien sûr pas les critiques légitimes dans les limites, en tout cas, de la discussion démocratique de telle ou telle politique de l'État d'Israël. Il s'agit bien ici d'une volonté de détruire, de démanteler l'État d'Israël. Et par ailleurs, dans ce même contexte, j'ai été frappé par le lancement en janvier 2001 du premier forum mondial, et très exactement du forum social mondial, sous le drapeau de l'altermondialisme. Vous connaissez le slogan célèbre, un autre monde est possible, qui a illustré à sa manière les convergences idéologiques entre la plupart des milieux d'extrême gauche et un certain nombre de mouvances islamistes, surtout les frères musulmans ou islamo-nationalistes, notamment les mouvements palestiniens. Donc après avoir employé ce terme dans diverses conférences en 2001, j'ai défini la notion d'islamo-gauchisme dans la nouvelle judéophobie en 2002, ainsi que dans plusieurs articles parus la même année, puis dans Prêcheurs de haine, un gros livre de 1000 pages environ, que j'ai publié en 2004.
Pierre-André Taguieff, quelles sont les interprétations que vous jugez fallacieuses ?
Ah, écoutez, là, il y en a un certain nombre, mais qui sont plus ou moins fallacieuses, plus ou moins discutables. La première interprétation que je considère comme abusive de l'islamo-gauchisme et d'ordre polémique et se rencontre chez tous ceux qui veulent illégitimer la notion. Elle consiste à croire ou à faire semblant de croire que dans ce mot composé, le segment islamo signifie djihadisme ou terrorisme islamique. Il n'en est rien. Du moins dans ma perspective, même s'il est vrai que des partisans ou des défenseurs du djihadisme peuvent se glisser dans les groupes militants qui se réclament d'une forme politique de l'islam, frères musulmans ou salafistes, font alliance avec des mouvances ou des partis gauchistes à travers des pétitions ou des les manifestations, et ce, au nom toujours de la cause palestinienne, de la lutte contre l'islamophobie ou du combat contre l'impérialisme ou le néolibéralisme. Alors, il y a une seconde interprétation abusive de l'islamo-gauchisme. Cette fois, c'est ceux qui l'utilisent comme une arme dans le combat intellectuel et politique et qui consiste à placer sous cette étiquette un ensemble flou de tendances idéologiques, de positions ou de projets politiques dans lequel on trouve notamment le communautarisme, le multiculturalisme, l'identitarisme, le rejet de la laïcité, etc. À mon avis, c'est là trop charger la barque, oui, au point de rendre la notion confuse. Et on peut enfin, c'est la troisième interprétation discutable que je relèverai, discutable mais intéressante, on peut voir dans l'islamo-gauchisme l'une des formes prises par ce que j'appellerais la religion de l'autre, avec un grand A, disons ce culte de l'altérité qui tient lieu de foi religieuse pour ceux qui n'en ont pas ou plus. Cette religion de l'autre est fondamentalement victimaire, et après s'être fixée sur l'immigré ou le palestinien comme figure principale, il y en a bien sûr d'autres, a érigé le musulman en victime maximale.
Oui, mais alors, Pierre-André Taguieff, le chrétien devrait se reconnaître là-dedans, puisque la religion de l'autre, Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres hein, », de porter le regard sur le prochain, non ?
Oui, mais c'est l'une des nombreuses corruptions de la foi chrétienne. Hein, le christianisme a ses simulacres, a ses imposteurs, etc. Et là, on a bien affaire à une gnose qui constitue une sorte de simulacre du christianisme.
Vous ne semblez pas parler, Pierre-André Taguieff, de Chris Hardman. Quel rôle a-t-il joué dans la genèse du concept d'islamo-gauchisme ?
Ah, bah écoutez, j'attache une grande importance à Chris Hardman, et dans mon livre apparaître le 17 mars prochain, Liaison dangereuse, j'analyse parmi les événements majeurs faisant partie de ce que j'appelle la préhistoire de l'islamo-gauchisme contemporain, la théorisation proposée au cours des années 90 par cet idéologue trotskiste britannique, Chris Hardman, donc né en 42, mort en 2009, d'une alliance stratégique entre les révolutionnaires marxistes et les islamistes sur la base d'un anticapitalisme et d'un anti-impérialisme supposé commun. Mais je dirais que Chris Hardman, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que dans cette préhistoire idéologique, il faudrait aussi remonter au congrès de Bakou tenu en 1920, lorsque Lénine a défini l'islam comme la religion, je le cite, d'une nationalité opprimée, voire comme une religion opprimée. Il faudrait également souligner l'importance de la révolution roméniste, lorsqu'en 78-79, le parti communiste iranien, le Toudeh, a soutenu les islamistes chiites dans leur conquête du pouvoir, sous les applaudissements d'une partie des élites intellectuelles occidentales, qui voyaient dans cette révolution un nouveau modèle révolutionnaire, supposé doté d'une dimension spirituelle, comme on disait à l'époque. Mais comme vous le savez, après 4 ans de collaboration avec le pouvoir islamique, le Toudeh fut brutalement détruit sur l'ordre de Roménie. Donc, vous voyez, avant le surgissement dans les années 90 et 2000 d'une alliance islamo-trotskiste, suivie d'une alliance islamo-décoloniale dont nous observons et subissons aujourd'hui les effets, il y a eu une alliance islamo-bolchevique ou islamo-communiste au début des années 1920 et une nouvelle alliance islamo-communiste en Iran à la fin des années 70. Voilà, donc alors, pour en revenir à Chris Hardman, plus précisément, qui était un des dirigeants du parti socialiste des travailleurs en Grande-Bretagne, il faut remonter à l'automne 94. Hardman publie un long article, qui sera publié en brochure d'ailleurs, Le prophète et le prolétariat. Et je dirais aussi, au passage, que contrairement à ce qui est répété paresseusement dans les médias, l'expression islamo-gauchiste n'y figure pas. Mais on en y trouve l'idée d'une alliance stratégique avec les islamistes. Et cette idée d'une alliance est présentée comme une option politique sérieuse. Je me contenterai simplement de citer un passage de ce texte important en tant qu'indice d'un tournant idéologique, voyez-vous. Je cite Hardman, donc. « Sur certaines questions, nous serons du même côté que les islamistes contre l'impérialisme et contre l'État. C'était le cas, par exemple, dans un grand nombre de pays lors de la Seconde Guerre du Golfe. Ce devrait être le cas dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne lorsqu'il s'agit de combattre le racisme. Là où les islamistes sont dans l'opposition, notre règle de conduite doit être avec les islamistes parfois, avec l'État jamais. Alors, vous voyez, donc, il y a là une manière de tabler sur l'antiracisme, sur la lutte contre l'islamophobie, puisque pour les islamistes, la lutte contre l'islamophobie est la principale forme de lutte contre le racisme, puisque le principal racisme pour eux, c'est l'islamophobie. Et il y a une tentative, donc, de jeter des ponts entre les deux camps.
Est-ce que vous souscrivez, Pierre-André Taguieff, à l'initiative de Mme Frédérique Vidal? Le CNRS ne semble pas le mieux armé apparemment pour la mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut en attendre si vous y souscrivez?
Ben écoutez, comme mes amis de l'Observatoire du décolonialisme lancé en janvier dernier, je ne peux que saluer cette prise de conscience et cette initiative de Frédérique Vidal, qui rejoint ainsi, 4 mois plus tard, les analyses, les positions et les inquiétudes justifiées de Jean-Michel Blanquer. La question reste de savoir comment, dans quel cadre et par qui l'enquête sera réalisée et sous quelle garantie d'impartialité. Mais alors, ma question est la suivante. Pourquoi choisir l'alliance Athéna plutôt que, par exemple, HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur? Il importe en effet de dresser un état des lieux concernant les travaux supposés scientifiques réalisés par les enseignants-chercheurs dans les universités, de faire une cartographie des secteurs de l'enseignement supérieur touchés par la propagande et l'endoctrinement décolonial et islamo-gauchiste, ainsi qu'une évaluation critique de la qualité scientifique des travaux réalisés dans un certain nombre de laboratoires. Or, confier l'enquête à l'Alliance Athéna, comme l'a proposé Mme Vidal, ce serait la livrer à l'actuel PDG du CNRS, Antoine Petit, qui est un protecteur avéré des études postcoloniales et un défenseur de ce qu'on appelle la théorie critique de la race, et qui est censé être nommé dans quelques semaines à la tête de l'organisme. Je dirais qu'Antoine Petit est très mal placé pour favoriser une telle enquête et en garantir l'impartialité. Je rappellerai simplement les positions qu'il a prises en novembre 2019 dans l'avant-propos qu'il a rédigé, d'ailleurs en écriture inclusive, pour un méchant ouvrage collectif rassemblant les auteurs, des auteurs postcoloniaux et décoloniaux. Je le cite, « La race devient la nouvelle grille de lecture du monde sur laquelle s'intègre la grille du genre et qui s'articule à la hiérarchie homme-femme. Dans une société non métissée, le social et le genre dominent, mais dans l'espace interracial, le social s'efface derrière le racial. » Fin de citation. Vous comprenez que dans l'étrange communiqué publié le 17 février par la direction du CNRS, intitulé « L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique », le PDG du CNRS a clairement choisi son camp idéologique, voyez-vous, notamment lorsqu'il condamne les tentatives de délégitimation des différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de race. Alors voilà le problème, voyez-vous. Donc, avec un certain nombre d'amis, nous avons publié dans Le Monde, daté du 24 février, donc daté d'aujourd'hui, de confier l'enquête envisagée au HCRS, institution indépendante du ministère. Elle pourrait se conclure par un rapport sur le statut et l'institutionnalisation des fausses sciences sociales, calqué sur l'idéologie décoloniale, l'imaginaire théorie critique de la race et l'intersectionnalisme, qui est une affaire de militantisme, mais rien de plus. L'enquête et l'évaluation critique sur ces dérives militantes et les impostures intellectuelles dans les milieux académiques rempliraient ainsi une fonction démystificatrice et contribuerait à la lutte contre le nouvel obscurantisme.
Mais Pierre-André Taguieff, est-ce que à l'aboutissement de cette enquête, est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur a le pouvoir de révoquer, de faire le ménage en quelque sorte dans le milieu de la recherche? Est-ce que c'est sa mission, son attribution?
Ah ben écoutez, si un certain nombre de labos, d'unités de recherche, etc., sont considérés comme tenus par des décoloniaux, bien sûr, il s'agit de traduire l'entreprise de démystification que nous appelons de nos voeux par des mesures diverses. On peut dissoudre des laboratoires, cesser de les financer, ne pas les reconnaître, ne pas leur accorder un label scientifique, etc. Mais ça, ce n'est pas à nous, à moi en particulier, oui, de penser à cette traduction politique. Mais effectivement, il y a une politique de la recherche et on ne peut pas accepter que du militantisme radical, d'ailleurs, se couvre des habits de la recherche.
Il y avait eu une affaire, l'affaire Dorin.
Oui, effectivement, cette affaire Dorin est très intéressante parce qu'elle montre bien la confusion entre le militantisme politique et la recherche académique, ainsi que le terrorisme intellectuel exercé dans certaines universités par les milieux décoloniaux. Alors, je rappelle rapidement, je résume les faits.
Oui,
le sociologue Stéphane Dorin, enseignant-chercheur à l'Université de Limoges et membre du GRESCO, qui est un laboratoire de recherche sociologique de cette même université, a été exclu le 30 novembre 2018 de son labo pour s'être élevé contre la tenue dans son université, j'insiste bien, au sein de son université, d'un séminaire d'études décoloniales où la porte-parole du Parti des indigènes de la République, Mouria Boutedja, devait être l'invité vedette. Le sociologue, violemment attaqué par les militants décoloniaux locaux et soumis à des pressions d'un certain nombre de ses collègues ralliés au décolonialisme, n'a pas été soutenu par la présidence de son université. Voilà le problème. Oui. Le professeur des universités a été désavoué pour avoir contesté l'invitation d'une activiste islamo-gauchiste, antisémite, anti-laïque, anti-républicaine, dans un séminaire supposé scientifique, mais dont les organisateurs, à l'évidence, confondaient militantisme et recherche académique.
Et le politique n'a pas réagi non plus?
Ben, le politique, apparemment, à part quelques comment dire déclarations ça et là, mais peu relayées, non. Donc la faillite des instances. Moi, ce qui me paraît très important, c'est que c'est la faillite des instances internes au monde académique. Voyez-vous, c'est l'absence d'autorégulation du monde académique. Et cette faillite a contraint Stéphane Dorin à faire appel au tribunal administratif de Limoges, qui le 8 février dernier a ordonné à l'université de Limoges de le réintégrer dans son laboratoire. Voyez-vous, quand la régulation n'est plus assurée par les pairs, l'appel à des autorités externes au monde universitaire s'impose.
Il y a deux questions qui m'occupent par rapport à ce que vous venez de dire. La première, sur la race. La race, c'était un mot qui focalisait, qui cristallisait un conflit avec la droite de la droite, plutôt. Et comment se fait-il que ce mot soit si présent à l'extrême gauche ?
Ben écoutez, il a été chassé par la grande porte, par les généticiens des populations, au nom d'ailleurs de l'universalisme républicain, par la gauche, etc. Et il est revenu à partir du milieu des années 2000, notamment par des associations ou des mouvements comme les indigènes de la République et leur pendant universitaire, car il y a beaucoup d'universitaires qui sont des relais du mouvement des indigènes de la République, qui en sont d'ailleurs membres dès le début, il est revenu par la fenêtre, en quelque sorte, voyez-vous, depuis une quinzaine d'années, sous le label « Théorie critique de la race ». Alors, la thèse est très simple, c'est la race est une construction sociale. L'ennui, c'est que, une fois qu'on a dit cela, et qui est d'ailleurs une banalité totale, puisque tout est construction sociale, y compris d'ailleurs la notion de construction sociale, ce qui pose quelques petits problèmes épistémologiques, la race, en fait, est repérée sur la base de la couleur de la peau. Donc on peut bien dire, on peut bien commencer par tenir un discours sur la race, en disant qu'elle n'est qu'une construction sociale et non pas une catégorie biologique, mais si on parle de la couleur de la peau, tout s'effondre, voyez-vous, toute l'argumentation s'effondre. À savoir, il s'agit bien de la race au sens raciste du terme, racialiste et raciste, au sens où l'entendaient les théoriciens racistes du 19e siècle, voyez-vous. Donc, tout cela me paraît d'une vaste fumisterie. un rideau de fumée, en tout cas, autour de la question. Il y a bien un retour du racialisme et même du racisme, mais ce racisme n'est plus le racisme anti-noir, etc. C'est un racisme anti-blanc. Ça, c'est une thèse que je soutiens et je continuerai à soutenir.
Autre question, autre paradoxe par rapport à ce que vous avez dit. Comment expliquer cet attelage entre des athées mécréants et des fanatiques religieux? Il y a une contradiction dans les termes, non?
Il y a une apparente contradiction, mais je dirais que des athées mécréants s'entroupent, toujours en quête du grand soir, de la révolution, constatant avec consternation que le prolétariat comme sujet révolutionnaire s'était évaporé, on pensait trouver dans les fanatiques de l'islam des rabatteurs, donc le moyen de réinventer un sujet révolutionnaire. Il y a là une quête des masses musulmanes pour réaliser le projet de créer la société sans classe.
Quelle est la réponse, dernière question, Pierre-André Taguieff, quelle est la réponse à l'islamo-gauchisme, s'il y en a une?
Ah, écoutez, pour les intellectuels adeptes de la pensée critique, comme moi et mes amis de l'Observatoire, il s'agit avant tout d'analyser correctement, sur la base de données bien établies, le phénomène inquiétant, sans le surestimer ou le sous-estimer. C'est ce que nous faisons. Mais l'islamo-gauchisme au sens strict, il faut y insister, n'est qu'une composante de la nébuleuse idéologique qui cherche à se faire passer pour un ensemble de recherches scientifiques. L'imposture intellectuelle doit être établie et dénoncée. Nous sommes face, en réalité, à une inversion perverse des accusations. Les censeurs jouent les censurés, les destructeurs des libertés académiques prétendent les défendre. Et je dirais que les vrais McCarthyistes, que sont les partisans du wokisme et de la cancel culture, osent traiter de McCarthyistes les défenseurs de la liberté d'expression.
Merci beaucoup Pierre-André Taguieff d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette notion dont vous avez la paternité, l'islamo-gauchisme. Merci et je vous souhaite une excellente journée.
Merci.
Et je rappelle donc l'ouvrage à paraître au mois de mars, Liaison dangereuse, islamo-nazisme, islamo-gauchisme, aux éditions Hermann. Pierre-André Taguieff, vous êtes philosophe, politiste et historien des idées. En écho également à notre discussion, il y a eu des sondages qui montrent qu'une large majorité de Français apparemment soutient Frédéric Vidal dans sa demande d'enquête dans le milieu universitaire. Deux tiers des Français approuveraient les propos de la ministre de l'Enseignement supérieur, selon une enquête d'Oxa Blackbone Consulting réalisée pour Le Figaro et nos confrères de France Info sur cette question, donc de savoir si les enquêtes dans le domaine universitaire et les sciences sociales en particulier sont pertinentes et relèvent bien de la science et de la démarche universitaire ou bien du militantisme. Merci donc à Pierre-André Taguieff d'avoir été avec nous. Cette interview est à retrouver comme le principe du grand témoin sur nos plateformes, les plateformes du site de la radio, radionotredame.com ou .net, et le grand témoin tous les matins du lundi au jeudi.